en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le 10 juin s'est déroulée une séance commune entre l'Académie des sciences morales et politiques et l'Académie roumaine en grande salle des séances de l'Institut de France, au cours de laquelle plusieurs personnes ont pris la parole. Yonel Éduc, Eugène Simion, Thierry de Montbrial et Jacques de Decker. Une rencontre interacadémique, européenne, sur la pérennité du modèle français en Europe. Retrouvons Bertrand Collomb, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, qui introduit les intervenants.
Le programme de notre Académie cette année est sur la France dans le monde. Et donc le sujet qui a été choisi pour la réunion conjointe de l'Académie roumaine et notre Académie rentre tout à fait dans ce cadre, puisque vous avez choisi que nous parlions du modèle culturel français en Europe et pour savoir quelle était son évolution. Donc avant que nous entendions M. Eugène Simion, qui est membre correspondant de notre Académie et qui est ancien président de l'Académie roumaine, nous parler de ce thème, je vais demander au professeur Yonel Éduc, président de l'Académie roumaine, de nous dire quelques mots. Professeur.
Monsieur le Président, distingués membres de l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France, chers confrères français et roumains, mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour nous et notre institution, l'Académie roumaine, d'organiser en commun ce séminaire et d'être accueillis dans ce cadre à l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France. L'Académie roumaine a un respect particulier à l'égard des académies françaises qui, le long de son histoire, ont constitué pour elle un véritable modèle. L'Académie roumaine a été fondée en 1866 sous le nom de Société littéraire roumaine. Et l'an suivant, en 1867, elle est devenue la Société académique roumaine. C'est en 1879, après la déclaration de l'indépendance de la Roumanie par le haut décret royal, que cette société s'est assumée la dénomination de Académie roumaine. Dès le début de son existence, la principale mission de notre Académie a été de cultiver la langue et la littérature roumaine. L'un des premiers grands projets de l'Académie a été d'élaborer le dictionnaire Trésor de la langue roumaine, travail qui a duré, avec des interruptions, plus d'un siècle. Le premier fascicule du dictionnaire a été publié en 1906, mais à peine en 2010, sous la direction de professeur Mario Sala, membre de notre Académie et vice-président. Cet ouvrage a été complètement terminé et intégralement publié en 19 volumes avec 18 000 pages, 175 000 mots et leurs variantes. En ce qui concerne l'histoire, en 2002, l'Académie roumaine a publié les premiers volumes d'un grand traité d'histoire des Roumains. Jusqu'en 2008, ont paru 10 volumes couvrant l'histoire de notre pays jusqu'en 1948. À présent, sous la coordination du professeur Dan Beridei, membre de notre Académie et vice-présidente, est en train d'être publiée une nouvelle édition, révisée et complétée, dont les premiers 6 volumes ont déjà paru. Une autre réalisation dont l'Académie roumaine est fière est la publication intégrale, en forme facsimilé, des manuscrits du poète national Mihai Eminescu, en 38 volumes, sous la direction du professeur Eugène Simion, lui aussi membre de l'Académie et ancien président. À présent, l'Académie couvre tous les domaines de la science, de la littérature et des arts, mais nous considérons que la langue nationale est toujours notre préoccupation la plus importante. Tout comme il se passe probablement dans d'autres pays, le roumain est soumis à une forte pression de l'anglais, et dans le langage courant, on adopte inutilement des mots et parfois même des expressions anglaises, en remplaçant ceux existants dans le roumain. La presse et la télévision sont moins préoccupés de conserver la pureté de la langue roumaine et c'est l'Académie roumaine qui s'assume cette mission. Mesdames et messieurs, les relations entre nos académies et généralement entre nos cultures sont anciennes et durables, concrétisées par l'élection de certains membres de sciences et de culture en tant que des membres d'honneur de l'Académie roumaine et par l'organisation en commun de certaines actions. Le long de son histoire, en signe de haute estime, on a élu comme membre de l'Académie roumaine 165 personnalités illustres de la science et de la culture française. Il a remarqué qu'en 1867, un Français, Edgar Quinet, fut le premier érudit étranger invité à faire partie de l'Académie roumaine. Nous nous rappelons avec un grand plaisir l'organisation à Paris en 2002 de la séance commune de l'Institut français de l'Académie roumaine pour célébrer les relations traditionnelles de collaboration entre les communautés scientifiques de France et de Roumanie, suivie par la publication d'un volume dédié à la coopération entre nos deux académies. À l'occasion de l'anniversaire de 140 ans depuis la fondation de l'Académie roumaine, le 3-4 avril 2006, l'Académie roumaine a organisé à Bucarest une séance solennelle en l'honneur de l'Institut de France, à laquelle ont participé des membres distingués de cette institution. En 2007, l'Institut de France a organisé à Paris une session commune en honneur de l'Académie roumaine à laquelle ont participé plusieurs membres de notre Académie. L'Académie roumaine a organisé ces dernières 12 ans, grâce à l'effort de notre confrère Eugène Simion, le président de la Fondation nationale pour la science et l'art, le séminaire international Penser l'Europe, en collaboration avec l'Institut de France, notamment avec l'Académie des sciences morales et politiques, Institut français des relations internationales, Académie royale des sciences économiques et financières d'Espagne et l'Académie royale des langues et littératures françaises de Belgique. La langue du séminaire est le français. Jusqu'à présent, on a publié 12 volumes. Les relations de l'Académie roumaine avec les académies de l'Institut de France nous font honneur et représentent pour nous l'occasion d'une collaboration et d'un modèle à appliquer que nous estimons particulièrement. Merci.
Je remercie le professeur Éduc de son allocution qui montre les liens anciens qui existent entre nos académies. Et donc, je vais passer la parole à M. Eugen Simion pour sa communication sur le modèle culturel français en Europe, nous survivra-t-il ? Après quoi, nous aurons deux discutants, Thierry de Montbrial, membre de notre Académie, mais également M. Jacques de Decker, secrétaire perpétuel de l'Académie royale de langue et littérature française de Belgique, que je remercie d'être avec nous aujourd'hui. M. Simion.
Monsieur le Président, Monsieur le secrétaire perpétuel, chers confrères, Messieurs, Dames, pour cette séance commune de nos académies, de notre Fondation pour la science et l'art, nous avons choisi de débattre un sujet délicat, très délicat même, le sort d'un grand modèle culturel, le modèle français, qui, nous l'ignore, a joué un rôle important dans l'Europe et plus généralement dans le monde. Au XIXe siècle et durant une bonne partie du XXe siècle, il a tenu un rôle essentiel dans la culture et la vie politique de la Roumanie et en général dans l'Est de l'Europe. La Roumanie moderne, en deux mots, s'est constituée, ce n'est pas un secret, suivant le modèle français. Vers 1840, des étudiants roumains originaires de toutes les provinces du pays font à Paris des études de droit, de littérature et d'histoire, apprennent à construire des ponts et des chaussées, suivent les cours de Michelet et d'Edgar Quinet, initient des projets d'intérêt national, par exemple distribution de terres aux paysans, modernisation du pays, avant toute chose, union de principauté roumaine et leur indépendance. En 1948, certains d'entre eux participent à la révolution de Paris, tandis que d'autres déclenchent la révolution en Valachie, en Moldavie et en Transylvanie. La France fait partie de leur discours. Le modèle français est toujours invoqué avec amour et reconnaissance. La France est une religion et les dieux, écrit un étudiant de cette époque. Deux jeunes révolutionnaires, Chiara Rossetti et Ionce Bretiano, écrivent à Michelet, je cite, « C'est votre esprit qui nous a animés. Ce sont vos idées de traduire. » Une fois revenu au pays, ce jeune enthousiaste vont essayer de faire bouger le monde ankylosé de l'Est de l'Europe où fonctionnent encore les structures d'un féodalisme de type oriental. Tentative qui connaît un certain succès. La petite Roumanie de 1859 et leur œuvre, avec l'aide très forte de Napoléon III. Modernisation de la société, synchronisation de la littérature. Et par exemple, je vous donne des exemples. Le premier ouvrage, œuvre romantique, juste après, vers la moitié du siècle. Donc, puis, premier accord du symbolisme dans la poésie roumaine vers 1870. Première traduction, c'est important, de la poésie de Baudelaire. Moi, je crois, je ne sais pas exactement, je n'ai pas vérifié, mais je pense que les premières traductions de Baudelaire bon, se sont parues en roumain. Enfin, Lamartine et Hugo sont entre 40 et 1870. 70, les auteurs que deux générations de poètes roumains désireux d'affirmer dans leur langue maternelle traduisent et imitent le plus. Au siècle de nationalité, comme on l'appelle, c'est-à-dire le siècle du romantisme, la langue roumaine modernise son vocabulaire en empruntant des termes en français. 22,12% du vocabulaire représentatif du roumain est d'origine française. Le roumain occupe ainsi la première place parmi les langues romanes pour ceux qui aient des empreintes en français. Aujourd'hui, il y a 1 400 000 élèves, c'est-à-dire 22% comme première langue, des élèves qui ont comme première langue le français, qui ont choisi le français. Messieurs, dames, madame et messieurs, je fais cette introduction en renonçant dans d'autres détails pour revenir à la question que je me suis posée à moi et que, si vous le permettez, je vais vous poser à vous. Quelles sont les chances de ce modèle dans le monde actuel et surtout, qu'en sera-t-il demain dans un monde globalisé où le français a perdu sa prééminence et où Paris n'est plus le seul centre de culture par où les talents et les valeurs doivent passer afin d'être confirmés? Quelle est la force, je voudrais dire, quelle est la force de cette diction et quel est le défi lancé de nos jours par le modèle français? La question qui se pose depuis une cinquantaine d'années, je crois, c'est de savoir si la France reste toujours une grande puissance. Je l'ai vu sincèrement, le thème ne me passionne pas. La France n'est plus, à coup sûr, une puissance coloniale et n'a plus, depuis un bon moment, un empire. Mais elle est restée, il faut le dire, une grande puissance culturelle, s'assurant ainsi pour longtemps encore, je crois, non pas la suprématie, mais la permanence, la présence dans le monde de l'esprit. Cela me semble essentiel. Les grandes puissances dominent le monde pour un certain laps de temps. Puis on le voit s'essouffler, d'autres grandes puissances surgissent, elles se heurtent, se démantèlent. Pour résumer, les grandes puissances sont éphémères, les grandes cultures perdurent. Quelqu'un, un philosophe, je cite un philosophe, disait que les peuples qui n'ont pas une culture puissante risquent de disparaître de l'histoire ou de chuter dans la catégorie informe de peuplade. Le philosophe donne l'exemple des Turcs d'aujourd'hui, descendants d'un empire qui terrifiait autrefois l'Europe, ils sont devenus les ébusseurs de l'Allemagne. Je ne voudrais pas glosser sur la justesse de cette remarque. Je pense même qu'elle est injuste, parce que la Turquie contemporaine possède un potentiel culturel et peut réserver de grandes surprises. Mais j'aime l'idée qu'un peuple sans culture est vulnérable dans l'histoire, surtout dans le monde actuel qui tend à devenir un village planétaire construit selon le principe des vases communicantes. À l'intérieur de ce système, seules les cultures peuvent nous différencier positivement et protéger nos traditions spirituelles. Heureusement, la France est restée, je le répète, une puissance culturelle. Mais son modèle existentiel, son style de vie, style d'existence, de même que son modèle culturel, se sont modifiés. Sont-ils encore attractifs, stimulants? Les jeunes intellectuels sont-ils toujours motivés pour rechercher la France ou bien se rendent-ils alléchés par de généreuses récompenses matérielles aux États-Unis? À mon avis, il existe beaucoup de raisons pour qu'un jeune de l'Est, disons, de l'Europe, viennent à Paris afin d'y parfaire sa formation dans des disciplines de pointe. Quelques données nouvelles influencent, je pense, le destin actuel de la France et l'identité de son modèle culturel. Premièrement, la France n'est plus seulement le pays des arts, la capitale artistique du monde. C'est aussi un pays performant dans le domaine de pointe de l'industrie. Deuxièmement, la France continue d'être un État unitaire national, mais qui abrite plusieurs cultures, plusieurs religions, plusieurs communautés. Un exemple, vous le savez mieux que moi, en France vivent 6 ou 7, 8 millions, je ne sais pas exactement, de musulmans qui aspirent à s'intégrer socialement tout en gardant leur religion, leur culture. Comment fonctionne dans ce cas le modèle français, qui est très actuel, parce que le problème est très actuel. Donc, comment fonctionne le modèle français? Et puis, une autre, la troisième, la France a retrouvé, je crois, on pense toujours à l'Est de l'Europe, que la France a retrouvé ces dernières décennies sa force diplomatique et aux côtés de l'Allemagne est la principale voix de la communauté européenne. Je dois avouer que, vu de l'autre côté de l'Occident, de l'autre côté du continent, la France se débrouille encore bien dans les circonstances du monde contemporain. Elle est restée un pays d'accueil. Elle respecte et défend les droits de l'homme. Elle cultive la tolérance et la démocratie. Son système politique fonctionne encore. Certes, ces dernières décennies, la France n'a plus donné de grands écrivains de fiction, comparables à ceux de la génération de Malraux et de Céline. Mais avant que lui reprochait ça, rappelons-nous que Roland Barthes avait affirmé que le mythe du grand écrivain a disparu et qu'à sa place, c'est le mythe du professeur qui s'est imposé. La France d'aujourd'hui a certainement des professeurs éminents et surtout la France continue d'adopter des intellectuels venus de tout pays. Comme le sait, si vous me permettez de le dire encore, la Roumanie a donné à la France. Nous avons reçu beaucoup de choses de la France. C'est un autre thème. Mais aussi, je crois que la Roumanie a donné à la France un grand nombre d'écrivains et d'hommes de science. De Panaïtis Strat, Eugénie Ionescu, Cioran, Stéphane Lupașcu, Tristan Tzara, Victor Bronner, Gerasim Luca. On n'a pas le temps de les évoquer tous. Rappelons seulement qu'aujourd'hui, il existe en France une très forte communauté intellectuelle d'origine roumaine qui vit et publie en français. Cette forte vocation d'accueillir les talents, pas uniquement les artistes, mais aussi des hommes de science, et de leur permettre d'affirmer, de s'affirmer, constitue un argument de poids en faveur de la France, un argument de poids en faveur de l'avenir du modèle culturel français. Mesdames, Messieurs, avant de finir, je reviens à la question que j'ai posée au début de mon exposé. Le modèle français, nous, survivra-t-il? Ce modèle dont les Français ont longtemps cru, et il y en a qui continuent à croire, qu'il a une valeur civilisatrice universelle et par conséquent peut être un modèle à suivre. Paul Valéry écrivait dans un essai « Pensée et art français », il disait « Notre particularité, parfois notre ridicule, mais souvent notre titre de gloire, c'est de nous croire, de nous sentir universels. Je veux dire homme d'univers. Observez, continue, le paradoxe, avoir comme particularité le sens de l'univers. » Je termine la citation. La France, on se pose la question aujourd'hui, encore une fois, la France a-t-elle perdu cette particularité? Perdra-t-elle à l'avenir cette vocation universelle? Ou bien, comme le présagé Marcel Raymond, d'un génie de France, en étude, le modèle français, expression de l'humanisme européen, continuera-t-il d'être un point de repère et d'offrir au monde un modèle existentiel, un modèle spirituel digne d'être suivi? Car, je cite maintenant Marcel Raymond, disait l'illustre professeur de Genève, auteur d'un livre essentiel pour nos domaines, de Baudelaire au surréalisme. Alors, car, disait-il, cette humanité française tend à l'universel. Pays de race et de sang mêlés, la France reçoit et concentre en soi les dons de sa nature et de la nature. Issue de la confusion la plus intense, elle compose lentement l'image universelle de l'homme. Ce génie n'est pas replié sur lui-même et fermé, retranché sur sa différence. Dans l'humanisme rationaliste des philosophes, qui rêvait d'amener l'intellect de tous les hommes à une parfaite coïncidence, dans l'humanisme des classiques qui voulaient assumer le plus d'humanité possible, ou encore dans l'humanisme chrétien qui ne s'accomplit que par la communion des âmes, on observe toujours un dépassement, un glissement au général et à l'universel. Terminer la citation. Que pourrons-nous ajouter pour soutenir le modèle culturel français aujourd'hui, à l'époque des incertitudes, comme l'appelait un grand savant, le physicien et philosophe Ilya Prigogine, où tout change et où toutes les hiérarchies s'écroulent. J'oserais affirmer que le modèle français a encore un avenir, qu'il a toujours la vocation de soutenir et de modeler l'esprit européen. Parce que, encore une fois, un premier point, il n'est pas seulement l'expression, le modèle français, il n'est pas seulement l'expression de l'esprit français, de la génie de la France, comme disait le professeur de Genève. Il est pour une large part de nous, de l'Européen, l'expression de l'humanisme européen, ou de ce que, selon Valéry, on cite alors Valéry, on appelle l'esprit européen. Avec ses trois grandes racines, l'esprit de la Grèce, que Valéry appelle la géométrie grecque, la spiritualité latine et les traditions judéo-chrétiennes. Aussi longtemps que toutes ces valeurs existeront, le modèle français est et sera, je crois, nécessaire. Si tout cela s'écroule un jour, alors sera à d'autres d'évoquer ces malheurs. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Deuxième point. Le modèle français, il est clair, ne fonctionne pas aujourd'hui tout seul dans le monde. Il doit admettre des alliances profitables et nécessaires à la civilisation et à la culture d'aujourd'hui et de demain. Nécessaire et inévitable aujourd'hui même, quand il est confronté au modèle anglo-saxon, non seulement dans le domaine des technologies de pointe, mais aussi et surtout dans le domaine culturel. Nombre d'essayistes français, j'ai remarqué, déplore le fait que le roman américain a tué, c'est le terme que j'ai trouvé dans ces textes, que le roman américain a tué le roman français. Et s'il a tué le roman français, il a tué le roman européen. Cela pourrait être vrai. Mais, en tant que critique et théoricien de la littérature, je ne crois pas à la mort de la littérature, comme on prévoit souvent. Je crois seulement à sa lutte pour la survie aux prises avec son solipsisme et son formalisme, mais aussi avec la facilité et l'agressivité des médias. La morale de cette fable, le modèle français ne doit pas se nourrir de la gloire de son passé, il doit adapter ses outils et imposer sa force que personne, au fond, ne peut lui enlever. Troisième point. Je crois par ailleurs que le modèle français culturel, modèle culturel français, survivra, comme cela arrive dans notre domaine en littérature, par le modèle espagnol. Donc le modèle français survivra dans et aussi d'autres langues que le français, qui est évidente en perte de vitesse. Tout bien considéré, l'esprit qui se trouve à la base de ce modèle est déjà universel et continue d'orienter le monde. Je pense aux droits de l'homme, par exemple, même si la technologie vient d'autres horizons. Celui qui utilise l'Internet a appris quelque chose des Français, par exemple, la leçon de la liberté et de l'égalité des hommes. Saurait-elle disparaître? Point 4. Le modèle français ne doit pas disparaître parce qu'il a dans sa structure, nous pensons, un élément essentiel, l'identité d'une langue et d'une nation. Saurait-on renoncer à notre identité? Une nation, une culture peut-être renoncer à ce qui lui est propre? Ce serait un suicide accepté. Point 5 et le dernier. Enfin, si le modèle français disparaît, c'est toute une partie de notre culture, c'est-à-dire une partie de ce qui est l'homme européen qui va disparaître. Il ne sert pas le seul à avoir civilisé la planète, mais son esprit a changé, ça c'est sûr, la face du monde. Paul Valéry, je le cite encore, ce grand Européen l'a déjà dit il y a à peu près 100 ans. Il existe donc un espoir pour le modèle français, c'est-à-dire une chance pour nous tous que qui croyons aux valeurs de l'humanisme européen. Monsieur Dan, la dernière question que je vous pose et que je me pose, que peut-on faire la France de nos jours pour que le modèle culturel français survive? Et encore, que pouvons-nous faire pour que ce modèle ne disparaisse pas au cours du processus de mondialisation? Ou plus exactement, que devons-nous faire pour que le processus de mondialisation ne devienne un processus d'uniformisation des cultures nationales? Permettez-moi de vous dire très brièvement deux mots sur ce que la Fondation nationale pour la science et l'art de Roumanie a fait en collaboration avec l'Institut français des relations internationales, dont Thierry Mondrial est justement le fondateur et directeur général, avec l'Académie des sciences morales et politiques de France, et en général avec l'Institut de France, avec l'Académie royale de langue et littérature française de Belgique, dont Jacques de Decker a eu la gentillesse de venir avec nous. Il est secrétaire perpétuel de cette académie. Et avec l'Académie royale des sciences économiques et financières d'Espagne, et bien sûr avec l'Académie roumaine, dans le cadre d'un séminaire Pensée d'Europe, qui est aujourd'hui à sa 12e édition. Un séminaire dans la langue et le français, et dont le débat porte sur les traditions culturelles de l'Europe, sur le multiculturalisme, sur la manière dont on juge et on écrit l'histoire, sur la contribution de l'enseignement contemporain à la formation de l'homme européen. Enfin, où se retrouve chaque année, au commencement d'octobre, pour discuter des membres de l'Académie, des écrivains, des hommes de science, hommes politiques. On se retrouve pour discuter de l'identité nationale, l'identité européenne, des cultures et des religions européennes, du statut des minorités et du statut de la communauté scientifique européenne. On a discuté aussi sur la francophonie et sur les deux Europes séparées pendant presque un demi-siècle par un rideau idéologique. Le modèle culturel français est directement ou indirectement au centre de ce colloque. Pensé et coordonné avec Thierry de Montbrian et mon très cher confrère Jacques de Decker et d'autres membres des académies européennes. Notre idée est que les humanistes et les spécialistes de sciences exactes de l'Est ou de l'Ouest doivent s'impliquer dans la construction de la communauté européenne et déterminer la place et le rôle de la culture dans ce vaste et laborieux processus. Situé au centre de l'Europe de l'Est, notre colloque, c'est-à-dire à Bucarest, notre colloque est devenu, depuis bientôt 2 ans, comme disent souvent les participants, le cercle de Bucarest ou le club de Bucarest. Et permettez-moi de vous montrer deux choses, qu'est-ce que nous avons réussi à faire. Je commence avec cette édition de Proust, dans une collection de type Pléiade qu'on a publiée notre fondation. C'est la deuxième traduction intégrale de Proust. Je ne sais pas s'il y a plusieurs traductions de Proust en notre langue. Et récemment, nous avons publié ça dans une traduction vraiment extraordinaire. Et Monsieur le Président, si vous acceptez, je ne sais pas à quoi vous pouvez utiliser ça, mais c'est une très, très, très... très beau bouquin en roumain. C'est tout Proust, toutes les éditions de Proust. Et
Merci, merci beaucoup. Je suis sûr que la bibliothèque de l'Institut sera très heureuse.
Je voudrais vous montrer. Quand on a fêté 10 ans de notre collègue, on a publié des fragments de l'exposé qu'on a eu là-bas. Avec, c'est un livre, je crois, important. C'est en français, donc ça c'est plus utile pour vous, plus accessible. Et aussi un livre album avec autour de Monsieur le Chancelier de votre mémorable voyage avec les présidents de 5 académies de l'Institut que vous avez fait quand on a fêté 140 ans de la Fondation. Si vous voulez recevoir ça pour la bibliothèque, c'est important. Et je ne sais pas si Thierry de Montbrial accepte. On a publié dans un bouquin, quand il a fêté son anniversaire, récemment, on a publié toutes ses conférences qu'il a fait là. 12 conférences. C'est un livre qui est très important, je crois, parce que lui, il est un Européen, comme je dis dans la préface, incorruptible. Et il partage avec nous tous les thèmes, tous les problèmes de la communauté européenne d'aujourd'hui. Alors, deux mots pour terminer mon discours. Pour conclure, le modèle culturel français continue, je crois, de fonctionner. Il est toujours séduisant, au moins pour moi. Nous pouvons lui faire confiance. Il continue d'être nécessaire en Europe. Et s'il est nécessaire en Europe, il est indispensable au monde contemporain qui tente à s'universaliser. En tant qu'intellectuel originaire d'un pays ayant une histoire, une autre histoire et une autre situation géographique, j'accepte la prudence de la France devant les enjeux et les risques du processus de globalisation. Je suis content de constater que la France n'ignore pas ceux qui doutent, qui ont des objections à cet processus. Cela veut dire que la France postmoderne est restée fidèle à son principe traditionnel. Il est interdit d'interdire. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre la séance commune de l'Académie des sciences morales et politiques et de l'Académie de Roumanie, représentée par deux de ses membres, Ionel Educ et Eugène Simion, qui avaient fait le déplacement à Paris le 10 juin 2013. Une retransmission de Canal Académie.